Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand-Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Tiffany Battistel. La gourmandise de ce matin est une réflexion de Lovecraft, citée par Michel Houellebecq dans son essai H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie, paru en 91. Je suis si las de l'humanité et du monde que rien ne peut m'intéresser à moins de comporter au moins deux meurtres par page ou de traiter d'horreurs innommables provenant d'espaces extérieurs. Notre apothicaire de l'âme grandit dans la Creuse à une période où la nourriture est rationnée. Rêveur déjà féru de bande dessinée, il fonde un ciné-club au collège des oratoriens de Juilly, puis s'inscrit en fac de lettres où on ne lui parle que de livres qu'il a déjà lus, en droit pour faire plaisir à ses parents et en école de journalisme car il ne sait pas trop vers quoi se diriger. En parallèle, il est vendeur opus puis commis à la librairie Futuropolis et s'intéresse déjà à tout ce qui lui semble injustement ignoré, oublié ou méprisé. Le curieux ne fait aucune hiérarchie culturelle et considère les arts mineurs comme des arts essentiels. Il dévore fiévreusement films, livres et disques sans savoir qu'il passera sa vie à en faire découvrir au grand public. En 71, il entre comme scénariste chez Pilote où il rencontre Goscinny. 3 ans plus tard, il fonde avec Moebius, Philippe Druyet et Bernard Farkas les Humanoïdes Associés qui publiera la cultissime revue Métal Hurlant dont les premiers abonnés seront Alain René, Chris Marker et Yves Montand, excusez du peu. L'érudit fait aussi carrière à la télévision où il fournit des milliers de remèdes anti-spleen aux spectateurs, des bandes dessinées dans l'impeccable, de la musique dans Sex Machine animée avec Philippe Manœuvre, des films de genre dans Cinéma de quartier, de l'horreur dans Quartier interdit et des séries dont vous l'auriez deviné sans mon aide, Destination série présentée avec Alain Carazé. Je n'ai jamais été doué pour la vraie vie, dit celui qui a donc passé la majorité de ses jours dans la fiction. Il a aussi écrit des scénarios de bande dessinée, fait connaître les grands du cinéma asiatique en France, presque tout vu, tout lu, tout entendu. Il a fait toute sa vie ce qu'on ne fait qu'une heure par semaine dans cette émission, transcender le réel par l'imaginaire et les œuvres d'art. Saluons le maître. Bonjour Jean-Pierre Dionnet.
Bonjour.
Dans votre livre « Mémoire, un pont sur les étoiles » publié dans les éditions Hors Collection, vous avouez une tendance à la cyclotymie. Ma première question, Jean-Pierre Dionnet, c'est quel est votre rapport à la mélancolie ? Et êtes-vous toujours en retraite quand votre météo intérieure n'est pas bonne ? Puisque c'est ce que vous dites dans le livre.
Oui, bah alors, étant cyclotymique, mais léger, hein, je suis pas un cas clinique, je sais qu'on passe par des moments d'exaltation intense et par des moments de dépression totale. Alors, la mélancolie, bon, bah, c'est un état où on peut se laisser aller très facilement et j'essaye de la combattre soit en l'ignorant, ce qui est une mauvaise méthode parce qu'elle revient par la porte de derrière ou par la fenêtre ou par la cheminée.
Comme un fantôme qu'on ignore.
Voilà. Alors, par contre, il y a des remèdes à la mélancolie qui consistent, en gros, à s'accrocher à des arbres, des buissons, des musiques dans la vie dehors ou dans la vie dedans qui sont l'inverse de la mélancolie. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est que la plupart de mes remèdes à la mélancolie sont dus à des auteurs qui sont eux aussi cyclotymiques et mélancoliques, mais qui ont trouvé leur moyen de combattre tout ça.
Vous dites dans ce livre, Jean-Pierre Dionnet, que vous avez grandi dans un monde où l'on n'évoquait pas ses problèmes personnels. Vous avez toujours cette pudeur aujourd'hui ?
Un peu moins. Mais par exemple avec mes enfants, parce que j'en ai plusieurs, je fais attention de ne pas tout partager, parce que je trouve que parfois, à vouloir partager trop de choses avec les enfants, sans s'en rendre compte, on leur fait partager des poids qui ne les concernent pas. Le monde réel va les rattraper assez tôt, faut leur apprendre à se défendre, bien sûr, mais il faut pas non plus leur dire qu'on a des problèmes avec les impôts ou que l'essence diesel est interdite ou des trucs, ça les concerne pas, ils sont encore dans ce monde à la Peter Pan, c'est pas la peine de leur rajouter des problèmes de gasoil.
Alors on va parler, Jean-Pierre Jeunet, de choses que vous pouvez partager avec vos enfants, puisqu'elles sont très réjouissantes. Vous allez convoquer dans quelques instants les Blues Brothers, des protagonistes en danger, Charles Trenet, Ray Bradbury, Chaval, Granville et des buts lointains. Juste après un titre d'Anderson .Paak featuring Nate Dogg, What Can We Do?
Rap singer, the hook fast, real life rhyme, big son of a gas.
Heart made of stone.
Why you pull so close?
'Cause my girl up and gone.
She'll be back in the morning.
Go on, mama, take your trauma.
Seems like I can't live without.
I'm aching more.
'Cause my heart is broke.
'Cause my love went wrong.
Yeah, another bag and she love me in the morning. Water bubble over stove. As I was dreaming of a bag, and I woke. It was starting to snow.
Oh, yeah.
And in a bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jean-Pierre Dionnet.
Fonçant comme un seul homme sur une de ces tables et d'un œil critique et circonspect, examinons le menu. Bonsoir, vous êtes... Nous allons remonter l'orchestre des Blues Brothers, mon gars.
Tout seul alors, ça.
On est en mission pour le Seigneur.
Voilà, nous préférerions changer de table.
Mais c'est le verre à eau, monsieur.
Et quand bien pour la petite fille, tes femmes, quand est-ce que tu me vends tes femmes? Tes femmes, là, je veux me payer tes femmes, là, la petite grosse. Vends-les-moi, soit... Vends-moi tes enfants.
Et dis donc, toi, combien que tu me la vends, ta femme, là?
1980, le culte The Blues Brothers de John Landis qui signe le scénario avec Dan Aykroyd, l'un des deux Blues Brothers avec John Belushi. Et je voudrais juste préciser que Dan Aykroyd est doublé en VF par Patrick Préjean qui est aussi la voix du dessin animé Comte Mordicus, le canard vampire végétarien que je recommande à tout le monde. Jean-Pierre Dionnet, vous avez choisi cet extrait en VF. Vous avez précisé délibérément en VF.
Bah oui, parce que d'abord pour que tout le monde comprenne. Et puis parce que ce que ça raconte est totalement impensable aujourd'hui. Combien pour la petite fille, combien pour la femme, la petite grosse et tout. C'est une époque totalement ravageuse. On est face à un film qui, au nom du Seigneur, le Seigneur du blues, du rhythm and blues et du jazz, Aykroyd et Belushi disent des choses, mais... incroyable, démente. Enfin, moi, cette séquence, je l'adore. Je peux en rire éternellement parce que ça va tellement loin. On est à l'époque, en gros, en France du grand Harakiri avec des couvertures de réserve qui aujourd'hui seraient impensables.
J'imagine que vous avez aussi choisi ce film, Jean-Pierre Jeunet, pour la musique, puisque c'est, on entend celle que vous passiez dans l'émission Sex Machine. Il y a James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin.
Oui, parce que je suis tombé dans la marmite en 67, parce qu'il y avait un concert organisé par Salut les copains, et je ne savais pas que ce jour-là, les gens que je voyais, Sam Mendes, Wilson Pickett, Otis Redding, qui chantait chacun une chanson lente et une rapide, comme sur un disque où il y a la face A lente et la face B rapide. Je ne savais pas que je voyais tous les dieux du rhythm and blues en un seul spectacle, sauf James Brown qui en fait un petit peu sa vedette, était passé 3 mois avant et que j'ai vu longtemps après.
Il y a aussi dans ce film, Jean-Pierre Jeunet, un côté très burlesque à la Tex Avery, hein, quelque chose de dessin animé. Par exemple, quand ils sont poursuivis par la police, ils sont en pleine cavalcade, ils voient des pantalons disco dans une vitrine, ils s'arrêtent pour les contempler. Enfin, c'est un dessin animé, ce film.
C'est à la fois un dessin animé, et puis on pourrait presque dire que c'est un film muet parlant. C'est-à-dire qu'on peut le regarder, les images comme ça, sans entendre, et c'est drôle quand même. Alors, ce qu'ils disent est encore mieux, mais curieusement, beaucoup de grands films parlants que j'aime, on pourrait presque parfois laisser que l'image. D'ailleurs, c'est ce que font les gens. Des fois, on le trouve en fond visuel. Et quand on voit ces deux têtes d'Ahuri, qui sont un peu des Laurel et Hardy modernes en même temps, avec leurs costumes qui sont déjà les Men in Black, on se dit, oh, quel drôle de film, quel drôle de monde. Et le pire, c'est que ça n'a pas démodé du tout.
Ils gardent leurs lunettes et leurs chapeaux dans les hammams.
Mrs. Melendez, please, I have to see your son. Please, let me talk to your son, it's important. ¿Dónde está su hijo? Es muy importante. ¿Dónde está su hijo? Por favor. Por favor, es muy importante. Por favor.
Get your goddamn finger off. Don't let go of that buzzy.
Melendez, it's me. Please open the door. I want you to do a job for me.
Hey, one more time, man. I'm coming down with a butcher knife. You got it?
Please, I'm from across the street. I just want you to do something for me. Open the door.
Who is this?
It's Levy. It's Tom Levy from across the street.
Who the fuck is
Tom? Creepy. It's a creep.
Creepy?
Open up.
1976, on entend Marathon Man de John Schlesinger avec Dustin Hoffman. On a choisi ce film pour introduire l'un de vos remèdes de prédilection, Jean-Pierre Jeunet, je vous cite. Regarder un film ou une série très noire où le protagoniste principal n'a pas le temps de réfléchir et doit agir vite et d'instinct, cas désespéré, seul contre le monde entier et gagnant contre toute attente.
Ah oui, ah, je pense que le meilleur remède à la mélancolie, c'est ces grands films paranoïaques, comme Marathon Man ou cette série récente, je pense à cette série canadienne où le type dès le début est pris par la mafia, sa femme a été tuée, son fils est un drogué, sa fille a disparu, tout le monde veut le tuer et on se dit oh là là, mes petits problèmes à moi, c'est vraiment pas grand chose.
Pourquoi, à votre avis, Jean-Pierre Jeunet, sommes-nous si fascinés par la noirceur, les films noirs, la catastrophe? Il y a presque le sentiment du sublime de Kant, vous savez, quand il raconte qu'on regarde une tempête très dangereuse à l'extérieur tout en étant à l'abri. C'est un peu ça quand on regarde un film d'horreur.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que on voit le pire et si on est un peu premier degré, parce que je suis toujours, on se dit, bah, j'ai bien de la chance. Et tout d'un coup, tous les problèmes qu'on a, qui sont souvent des problèmes très très relatifs, sont totalement balayés. Autant une comédie feel good, moi je la trouve sympa, je vais rire. Bon, évidemment, 4 mariages et un enterrement, je l'ai vu 10 fois. Je peux être très très là-dessus, très neuneux. Mais en règle, d'autant qu'il y a un moment d'émotion intense. Mais en règle générale, oui, les films qui vont mal, où ça tourne mal, où ça finit bien. Mais oh, est-ce que ça peut finir bien? Non, c'est jusqu'à la prochaine fois. Alors dès lors, on se dit, je suis le roi du monde. Je peux faire à peu près ce que je veux. Et mes ennuis, ce ne sont que des trucs très superficiels.
On a gagné un sursis. Mais il y a une question que je me pose, Jean-Pierre Jeunet. Vous qui avez vu tant de films d'horreur, est-ce qu'on peut encore vous faire peur?
Ah, ça c'est un vrai problème. Jusqu'à il y a 2-3 mois, je vous aurais dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu vraiment peur. Et puis je vois Mylène Farmer dans Ghostland, dont j'attendais rien. Hein, Mylène Farmer, pour moi, c'est Mylène Farmer. Et je vois là-dedans un personnage tellement perverse, tellement souriant, en même temps tellement méchant, avec deux filles totalement manipulées. J'ai pas peur, je suis extrêmement dérangé. Et je me dis, ah, on peut encore me déranger.
Vous déranger, mais pas vous faire peur.
Me faire peur, ça va être dur. Je dirais que la dernière fois que j'ai eu vraiment, vraiment peur, c'était un film d'Alain René, qui était Providence, où au moment où on l'attendait le moins, il y avait l'autopsie réelle d'un cadavre réel. Et chaque fois qu'on allait fermer les yeux, en se disant, comme ça, je verrai pas la séquence, eh bien, il la mettait ailleurs. Ce qui fait qu'on tombait toujours sur cette autopsie. Et bon, une vraie autopsie d'un vrai cadavre, c'est du lourd. Là, tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est pas des effets spéciaux. Alors là, je crois que ce qui m'a fait le plus peur de ma vie, oui, c'est Alain René.
C'est drôle, c'est assez inattendu comme réponse. Mais dans vos mémoires, Jean-Pierre Jeunet, vous parlez des snuff movies. Ces films où les comédiens ne sont pas des comédiens et où la torture ou le meurtre ont lieu de façon réelle. Et vous avez essayé d'assister à un snuff movie aux États-Unis, mais en fait c'était truqué. Et, oui. Et vous dites vous-même, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si ça existe vraiment. Vous n'en avez toujours pas vu ?
J'ai toujours pas vu de snuff movie. Je ne suis plus assez perturbé pour chercher des snuff movies. Je suis persuadé que, par contre, si j'ai assez de roubles, de dollars, etc., oui, je pense qu'il y a des snuff movies. Oui, je pense que ça existe. Oui, je pense que des gens post-néroniens qui ont absolument tout vu peuvent se faire des spectacles snuff. Oui, je crois que c'est vrai. Enfin, j'ai plus du tout envie de vérifier parce que je pense que on est capable d'une telle abjection et surtout, il y a le fait que l'envie de vouloir aller toujours plus loin peut amener à basculer et à ne même plus se rendre compte qu'on est passé de l'autre côté.
En tout cas, je sais, en ayant lu vos mémoires, Jean-Pierre Jeunet, que vous n'avez pas peur des fantômes. J'invite celui du fou chantant à nous rejoindre.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin.
Jean-Pierre Jeunet, on entend votre premier antidote musical, l'un des plus grands succès de Charles Trenet, le morceau de 37 « Je chante » composé avec Paul Mizrahi pour le film musical homonyme de Christian Stengel dans lequel joue Trenet. C'est un morceau joyeux en apparence dans lequel il est question d'un vagabond qui meurt de faim et qui finalement se fait arrêter par des gendarmes et ça se termine en pendaison, en suicide. C'est oui. La première fois que je fais attention aux paroles.
Oui, je hante les fermes et les châteaux. Ficelle, tu m'as sauvé de la vie. C'est-à-dire que la joie de traîner, qui est la joie du vagabond, c'est déjà pas évident. De celui qui n'a rien à manger, rien à boire, c'est pas évident. Et pourtant, c'est un hymne à la vie. Et après, c'est un hymne à la mort. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le fantôme qui hante la nuit. C'est rigolo, comme
oui,
il dit.
Il est heureux parce qu'il n'a plus faim.
Il
parce
a plus faim, oui.
C'est non, terrible.
Mais je pense que traîner, c'est un cas à part. Il y a la chanson française, et on était plusieurs à le penser. Hein. Je me souviens de Gainsbourg, quand il a préfacé l'intégrale des chansons de traîner, je lui disais, tu dis qu'il n'y a pas de poète dans la chanson. C'est ces engueulades avec Béart qui dit, non mais traîner, c'est pas pareil. Traîner, c'est le poète de la chanson, et... Traîner, moi, quand j'attendais mes filles, mes jumelles de ma femme, j'ai fait un peu comme dans Marathon Man, c'est-à-dire que je leur passais constamment du traîner quand elles étaient encore dans le ventre de leur mère, pour qu'elles sachent quelle émotion on peut trouver, quelle joie, et en même temps une joie à double sens, parce qu'effectivement, c'est pas si heureux, mais si c'est heureux, puisque au-delà de tout, on est vivant et il est vivant quand il chante.
C'est vrai, mais il chante souvent des choses graves avec légèreté. C'est pour ça qu'on est emporté quand on écoute ces morceaux, mais oui. Quand on fait attention aux paroles, Jean-Pierre Dionnet, vous avez choisi un autre titre de Trainet, le titre de 55 à la porte du garage, qui se passe à Narbonne, dans sa ville natale, et puis c'est très mélancolique, on va l'écouter, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur ce morceau, juste avant de l'écouter.
Alors, le Trainet est malicieux, hein. Il faut savoir, vous allez écouter bien le début de la chanson, que son chauffeur, bel homme, baraqué, s'appelait André.
Ah, d'où le jeu de mots dans le refrain que certains ont
voilà.
soupçonné.
Et donc, dès qu'on écoute la chanson, on comprend que c'est un hymne à lui et à son chauffeur qui partent en balade. Écoutez bien les premières paroles, c'est un jeu de mots impensable, mais fait.
Je pensais que c'était une légende.
Ah non, je t'attendrai.
Oui, à la porte du garage, on l'écoute tout de suite.
Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils, par son mari qui s'était enfui à la ville, dans une superbe panhard et le vassor, qu'il conduisait en plein essor. Lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant, au lieu de partir dans le vent. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira. Et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme l'avait trouvé là? L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris, Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan, qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait aux deux bons vieux. C'est la minute d'émotion. Ah, quel bonheur à la porte du garage, quand tu parus dans ta superbe auto, papa. Il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coteau. Demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira. Et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète, et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Papa.
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Dionnet, auquel rien n'échappe, puisque Jean-Pierre Dionnet, vous avez choisi un recueil de nouvelles de Ray Bradbury portant presque le même nom que l'émission dans sa traduction française. J'aurais pu m'en être inspiré, mais je l'ai découvert après avoir créé l'émission. Il s'agit d'un Remède à la mélancolie qui rassemble 22 nouvelles publiées pour la plupart dans les années 40 et 50 dans des magazines. Et il y a une dédicace très jolie au début du recueil. C'est à son père. À père dont l'affection manifestée sur le tard bouleversa son fils.
Oui. Ah oui, Bradbury, l'auteur des chroniques martiennes, fin année 451, de ce recueil de nouvelles, et puis après le texte moins bien, il faut le reconnaître. Bradbury, qui était quelqu'un que j'ai croisé, qui était très particulier, il disait tout le monde est beau, Hollywood c'est merveilleux, New York c'est merveilleux, et puis... Je me suis dit, bon, on peut pas faire l'interview de ce type parce que il a le côté beautiful people. Et après, j'ai appris que quand on est allé dans la rue, en fait, il se tenait comme ça avec une énorme veste, mais il avait des liasses de billets parce qu'il se faisait payer uniquement en liquide. Et puis après, sur la fin de sa vie, il y a une jeune chanteuse canadienne qui a fait une chanson qui s'appelait I Want to Fuck Ray Bradbury. Et tout d'un coup, il était plus du tout le vieux monsieur gentil qui aimait tout le monde. Et il l'a accueilli et il lui a chanté la chanson en direct. Et il l'a regardé en faisant « Ah, oh yes, Oh yes. Et Bradbury, ouais, à un moment précis, ça a été la magie de la part d'un écrivain de science-fiction qui disait que pour lui, il n'y avait qu'un écrivain, mais pas de science-fiction, que c'était Fitzgerald, qui avait trouvé toutes les solutions de toutes les nouvelles possibles et que quelque part, il espérait arriver à la cheville de Fitzgerald.
Qui est aussi un écrivain que vous affectionnez, Jean-Pierre Jeunet. Il y a quelque chose qui me frappe dans les nouvelles de Ray Bradbury, c'est que quel que soit le registre, il est toujours un peu question de la tristesse et de la difficulté à habiter le monde.
Oui, je pense que tous les personnages de Bradbury vivent à côté. Je pense dans les chroniques martiennes, à un moment où toute une famille de terriens se reflète dans l'eau. Et ils se regardent, c'est des terriens qui regardent des terriens, et ils disent « Regarde, ce qu'on voit dans l'eau, ce sont les martiens. » On croyait aux rois martiens, on croyait qu'ils étaient dorés, peut-être qu'ils n'ont jamais existé. En fait, c'est nous les martiens. Donc, ils sont pas sur la planète la Terre, en même temps, ils ne sont pas vraiment les martiens. Oui, les personnages de Bradbury vont contre et se battent jusqu'au bout, mais avec une certaine légèreté. C'est jamais violent, c'est jamais exacerbé. Alors quand tu fais de l'horreur, il peut aller très loin, mais c'est de l'horreur qui est presque toujours parodique, tellement exagérée. Non, je trouve qu'il a été un immense poète de la science-fiction.
D'ailleurs, Jean-Pierre Jeunet, vous avez choisi un extrait d'une des nouvelles du recueil qui s'appelle « La fin du commencement ». C'est à l'occasion de la construction de la première station interplanétaire, un couple dans son jardin, un couple dont le fils va faire partie de la fusée qui va construire la première station interplanétaire. Et il y a un monologue du père que vous avez décidé de nous lire.
Oui, parce que ça nous parle d'aujourd'hui, où nous vivons demain matin. Or, il nous en parle autrement. Il nous dit... Dorénavant, nous engloberons sous le même terme l'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de fer. Ce sera l'âge où nous marchions sur cette terre en écoutant les oiseaux chanter le matin et où nous aspirions à voler. Peut-être l'appellerons-nous tout simplement l'âge de la terre. Peut-être l'âge de la pesanteur. Des milliards d'années durant, la pesanteur nous retint, attachés à cette terre, en nous narguant avec le vent et les nuages, avec les moucherons et les criquets. Aussi ce soir, nous arrive-t-il quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voici venue la fin du règne de la pesanteur et en même temps la fin d'une époque à jamais révolue dont nous garderons impérissables souvenirs. J'ignore comment les historiens de l'avenir diviseront les périodes du temps, si notre époque commencera aux légendes persanes des tapis volants ou aux fêtes du nouvel an chinois célébré avec des beignets et des feux d'artifice ou à n'importe quelle autre seconde de l'heure qui va suivre.
Un remède à la mélancolie de Ray Bradbury, lu par vous, Jean-Pierre Jeunet, grand lecteur. Et je sais que vous avez écrit une nouvelle qui s'appelle « Les confessions d'un lecteur fou », parue en 75 dans Métal hurlant. Qu'est-ce que ça racontait ? Je ne l'ai pas retrouvé.
Alors, comme ça, vous me posez une colle parce que je ne me collectionne pas. j'ai ce que j'ai fait. Je pense que ça devait être... C'est revenu souvent, hélas, de par la suite, et puis après c'est devenu un fait, qu'un jour j'ai réalisé que la passion des livres, la passion de la musique, la passion de la peinture, la passion de tout ça, était quelque chose d'envahissant. Et je crois que dans ce texte, je disais, alors que j'avais trois pièces, dont une remplie de livres, je me rendais compte qu'un jour... mes livres, mes disques, mes films me chasseraient de chez moi. Que c'était une quantité inimaginable. Il y a quelque temps, j'ai pris l'excellente résolution de classer mes livres, mes disques et tout. Alors, j'ai 900 mètres de linéaire, rangés à peu près, et j'ai quatre pièces où il y a des caisses empilées. Et j'ai calculé à peu près, en rangeant trois ou quatre caisses, que si j'y passais les cinq prochaines années de ma vie, je n'aurais pas fini de trier. Donc je pense que le danger du livre, c'est ça. Le pire danger, c'est quand vous voulez éliminer quatre ou cinq livres dans un rayonnage et que vos enfants arrivent, disent « Bah nous, on va les prendre ». Donc on ne peut pas se débarrasser du fait que la culture a du poids au sens propre et que le livre, par exemple, est ce qui pèse le plus lourd avec les lingots d'or. Là, je connais moins bien le sujet.
Jean-Pierre Jeunet, je comprends cette invasion des livres puisque vous avez pris une habitude, je ne sais pas si vous l'avez toujours, entre 14 et 16 ans, c'était de lire un livre par jour. Vous ne vous endormiez pas avant d'avoir fini le livre choisi.
Oui, alors d'abord, je pense que les oratoriens, les bons pères, chez qui je vais rester la 9e à la terminale, étaient assez cool, ou alors que les pions étaient totalement miro, parce que lire avec une lampe de poche la nuit, repliée sous le drap, ça devrait se voir, et ben apparemment non. Et comme c'est la grande époque du livre de poche, et que le livre de poche au début était de poche, c'est-à-dire qu'on faisait pas des volumes de 500 pages, ça ne déformait pas la poche du costume d'ailleurs au demeurant. Ça c'était une très bonne chose. Donc effectivement, je vais lire tout ce qui a des belles couvertures. Et ça sera aussi bien Huysmans que Graham Greene, ça sera aussi bien Pierre Benoît que Paul Gut. Et je vais de surprise en surprise parce que je découvre que tous ces livres m'attendaient.
Dans « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier, il y a Patrick Devers qui a toute la collection des livres de poche, du numéro 1 jusqu'au dernier. Vous êtes deux peut-être dans l'univers, un personnage de fiction, et vous, Jean-Pierre Dionnet, à avoir lu les livres de poche à partir du numéro 1.
Oui, et même je dirais que plus tard, j'ai failli compléter les collections. Marabout, par exemple, qui était un concurrent belge. Et puis quand j'ai réalisé, je parle qu'en linéaire moi, quand j'ai dit que j'avais 4 mètres de long de Marabout, et que si je faisais tout Marabout, ça ferait 9 mètres, je suis pas un arpenteur de l'imaginaire, j'ai pas besoin de faire ça. Hein, je pense à Strand, la librairie américaine, qui annonce qu'elle a 9 miles of book. Donc 9000 anglais, donc ça doit faire 12 kilomètres, quelque chose comme ça. Oui, ça c'est le poids du livre. Mais en fait, je suis complètement ravi, parce que parfois il m'arrive de voir un livre sortir de la pile, un chat à la sortie, en appuyant dessus, en le faisant tomber, et je me dis « Ah, c'est quoi ça ?» Et j'ai envie de le relire. Car j'arrive à un moment de ma vie où j'ai plein de livres à lire, et en même temps énormément de livres que j'aimerais bien relire, on va dire comme Dumas, 20 ans après.
C'est plutôt réjouissant comme programme. Dans les années 60, les téléphones se multipliaient dans les sous-sols des cafés, à côté des toilettes, c'est ce qui a inspiré le sketch suivant.
Ce que je cherche à dire dans tous les journaux qui ne veulent absolument pas me prêter leurs feuilles, ou sur les antennes de toutes les radios agréées qui me ferment leur micro au nez, eh bien je le dirai ici, très haut.
Bravo!
Oui, je peux enfin crier à la face de la nation, halte! Il faut que cela cesse! Le scandale des lavabos souterrains a assez duré. Le jumelage du téléphone et des lieux d'aisance est immoral. L'automatisation de l'un ne peut en aucun cas trouver des raisons d'association avec l'autre.
Jean-Pierre Marielle interprète le protestataire du dessinateur et humoriste Chaval dans le cabaret de l'absurde sur l'ORTF en mai 67. Jean-Pierre Dionnet, vous avez choisi deux citations de Chaval. Qui vole un bœuf est vachement musclé et quand le piano tombe, le déménageur s'épouvante. Vous l'avez rencontré, Chaval ?
J'ai jamais rencontré Chaval et j'ai eu une ou deux occasions, mais j'ai eu peur. Je sais que GB m'avait dit, tiens, est-ce que tu veux rencontrer Chaval? Et puis j'avais dit oui, puis après, ça ne s'est pas fait. Parce que pour moi, c'était un dieu vivant, mais enfin, je me doutais d'une chose. C'est que sa bande à Chaval, c'était des gens comme Alexandre Vialat et d'autres.
Merveilleux.
Et c'était des grands dépressifs tous.
C'est vrai.
Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait rire? Qu'est-ce qu'ils nous ont émus? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme joie? Lors même que eux-mêmes vivaient dans le désespoir. Et peut-être que leur part de bonheur, ils nous l'ont donné à nous et qu'ils en avaient plus assez pour eux.
C'est vrai que Chaval a d'abord avoué à sa femme qu'il l'a trompé depuis des années. Elle s'est suicidée et un an après le suicide de sa femme, il s'est suicidé lui au gaz chez lui en mettant un petit écriteau sur sa porte. Attention, danger d'explosion.
Ah oui, non, Chaval, c'est... En plus, quel dessinateur! Quel génie
Il a illustré d'ailleurs les chroniques de la montagne de Vialat.
Ah.
C'est lui sur la couverture.
Oui, alors moi j'avais la chance, puisque ayant grandi à moitié dans la Creuse, j'avais la montagne. Dans toutes les semaines, j'avais une chronique d'Alexandre Vialat qui finait toujours par « Et c'est ainsi qu'elle a grand », ce qui là aussi est impensable aujourd'hui. Et puis il y avait le mensuel spectacle du monde, auquel par chance mes parents étaient abonnés. Et ce qui fait que... Oui, j'ai grandi avec Vialat, et alors, je prenais tout au sérieux, par exemple, je me souviens d'une chronique très très véhémente où il disait « On ne doit pas dire « tant qu'à faire », ce n'est pas français, on doit dire « à tant faire ». Et je me dis aujourd'hui, plus personne n'utilise ni l'un ni l'autre. Mais Vialat, c'est l'homme de trois romans sublimes, dont « Battling le ténébreux »,«
Les fruits du
Congo », « Il échoue », « Il revient de la guerre », il va pas bien. Après, il ne va faire qu'écrire des chroniques. Mais quelle chronique, quelle beauté, quelle émotion. Et moi, chaque fois que je lis la fin de Battling le Ténébreux, c'est pas un remède à la mélancolie. Hein, quand les chats font le gros dos sous la lune, j'ai une petite larme à l'œil. Mais c'est un monde d'enfance que je n'ai pas connu, et lui non plus, à mon avis. Un monde d'enfance rêvé.
Lisez Alexandre Vialat. Vraiment, vous ne pouvez pas être déçu. C'est le maître en style de Pierre Desproges.
Oui, bien sûr.
Dans un instant, nous parlerons d'un autre grand dessinateur, mais d'un autre siècle. Le temps d'écouter un titre de la playlist Inter, Malik Djoudi, Dis-moi que t'y penses. À la mélancolie sur France Inter avec Jean-Pierre Dionnet. Vous avez choisi de nous parler de l'illustrateur et caricaturiste Jean-Ignace Isidore Gérard dit Granville, mais surnommé Adolphe par sa famille du prénom d'un jeune frère mort 2 mois avant sa naissance. Ça vous forge un homme de porter le nom d'un défunt. Granville, est-ce qu'on peut dire, Jean-Pierre Dionnet, que par sa fantaisie et son imaginaire poétique, ça pourrait être un illustrateur de science-fiction ?
Parfois, c'en est un. Dans un autre monde, par exemple.
Un pont interplanétaire qui va sur toutes les planètes.
Voilà. On va sur toutes les planètes et les femmes ont des robes sublimes qui sont à base de fleurs, hein, de colocates et autres, etc. Mais j'ai vu qu'à propos de Balzac, on avait mis en parallèle les deux. C'est pas idiot du tout, parce qu'il y a beaucoup de livres de Granville où ce sont des hommes avec des têtes d'animaux. Et dès qu'on a vu ça, on peut très facilement aller dans un café et s'amuser. C'est-à-dire qu'on regarde quelqu'un et on se dit, tiens, lui, c'est un crocodile. Oh, voici un toucan. Et cette dame ressemble bigrement, alors pas d'allusion grivoise, à une grue. Et on s'aperçoit que cette vision, qui est très 18e, 19e siècle, hein, on voulait que la morphologie humaine signifie l'âme. Ben alors, quand on prend les animaux, on tombe des fois pile. Hein, moi, ce matin, j'ai vu un très beau ratier.
Et quel animal êtes-vous, vous, Jean-Pierre Dionnet ?
Alors, je sais pas. Ma maman disait que je pourrais embrasser une chèvre entre les deux cornes, parce que j'ai un visage très mince. Alors, je dois faire partie de ces animaux qui ont un... Donc, je sais pas. Certainement un poisson... peu connu des profondeurs, qui est effectivement un visage en triangle et qu'on peut mettre dans un V. Mais alors, un animal particulier, j'en sais rien, parce qu'il faudrait que j'ai l'âme de cet animal. Ah, bonne question. Peut-être que quelqu'un le saura. Mais évidemment, si quelqu'un le sait, c'est pas moi.
Alors, bon, l'appel est ouvert. Cette exposition à laquelle vous faites référence, elle a lieu jusqu'au 13 janvier prochain à la maison de Balzac, rue Raynouard, dans le 16e à Paris. C'est Balzac et Granville, une fantaisie mordante. Il y a une cinquantaine d'œuvres, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que Balzac fut journaliste et que Granville a illustré l'écrivain. Il y a des caricatures animalières et aussi politiques qui trouvent une résonance encore aujourd'hui.
Moi, je pense que Granville est justement un vrai ancêtre de ce qu'on peut appeler la grande époque de Rakiri ou de l'assiette au beurre et tout ça. C'est-à-dire qu'en plein 19e siècle, il n'hésite pas à faire des déformations, des exagérations incroyables qui, grâce à son talent graphique et à son sens du réalisme, passent. C'est-à-dire que il y a d'autres gens qui ont essayé ça, hein. Faire un monsieur crocodile, si c'est poser une tête de crocodile en collage sur un costume d'être humain, on va dire c'est amusant, ça sera un collage de Prévert. Je dis ça sans dire du mal de Prévert, je parle des collages de Prévert. Tandis que chez Granville, ça fonctionne, le bras un peu trop long, les doigts un peu déformés. Non, je pense que Granville est le grand ancêtre de la caricature charge qui va naître dans les années 1900 avec justement l'assiette au beurre et plein de journaux, qui va un peu disparaître et revenir avec toute sa splendeur dans les grandes années de Rakiri. C'est-à-dire que je pense à l'instant à Jacques Chirac qui vient de nous quitter et d'une conversation qu'il avait eue, que m'a raconté Volinsky, et il est allé voir Volinsky qui mangeait, et il lui a dit « Ah, cette semaine, vous m'avez pas loupé, Volinsky !» Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Volinsky lui dit une expo Dubout. Et Chirac, qui était alors maire de Paris, lui dit c'est fait. Et Volinsky dit évidemment, moi je connais les promesses des hommes politiques. 15 jours après, on m'appelle et on me dit monsieur Volinsky, vous êtes commissaire d'une expo Dubout à la mairie de Paris. C'était classe quand même cette période-là.
C'est vrai.
Quand je suis dans une ville, je n'erre pas. Je n'aime pas marcher à l'aventure, marcher oui. Pour rien, j'en suis incapable.
Vous donner des buts.
Absolument. Il faut que. C'est pour ça que, par exemple, à l'étranger, de ce qu'on appelle le shopping est très important pour moi. J'aime beaucoup le shopping. Parce que, pas tellement par le fait que ça me fait acheter des choses, que souvent je ne peux pas acheter d'ailleurs, mais parce que ça donne un but, justement. Et je n'aime pas du tout, par exemple, même à la campagne, je serais incapable de dire, je vais faire une promenade, je sors, je vais faire une promenade. Non, il faut que je puisse me dire, je vais chercher du lait, je vais chercher de la papeterie dans la ville voisine, etc. Et alors à ce moment-là, en y allant, je vois évidemment des tas de choses. Oui.
Jean-Pierre Dionnet, votre activité anti-spleen, c'est de sortir, marcher vers un but lointain, s'arrêter au café, dire bonjour aux habitués, sourire, puis course faite, revenir, ça va déjà mieux. Est-ce que vous partagez la conception de Roland Barthes qu'on vient d'entendre ?
Totalement, parce que ce qui est très curieux, c'est que le fait d'avoir un but fait qu'on n'erre pas. Sortir pour sortir et voir qu'il fait bleu ou gris, c'est une chose, tandis que sortir pour aller acheter des carambars. Bon, ça me paraît difficile d'aujourd'hui, surtout à mon âge. Et aller jusqu'au carambar et croiser des gens qu'on n'a pas prévu de croiser, et évidemment devant eux, bien se tenir. Hein, on va pas leur dire « Oh, ça va pas, c'est pour ça que je suis sorti ». On leur dit, ils disent « Ça va », on dit « Ouais, super, et toi ?» Et le type qui va peut-être très très mal dit « Moi aussi, ça va super ». Eh ben, on va déjà mieux. En fait, le grand danger de la mélancolie, le grand risque de la mélancolie, et je l'ai vu chez des amis à moi, c'est l'enfermement. Dès qu'on s'enferme, qu'on reste seul, là, on se laisse aller dans une spirale infernale. Il faut aller dehors. On est chez Charles Trenet, en fait. Dehors, il fait gris. Eh ben, tant mieux, il y aura de la pluie.
Pourtant, dans vos mémoires, Jean-Pierre Dionnet, vous dites que vous n'avez jamais eu de but dans la vie, et vous dites même qu'atteindre un objectif, c'est se confronter au risque de sombrer dans la mélancolie.
C'est-à-dire que je ne crois pas que le but qu'on a ait beaucoup d'importance.
C'est le chemin qui compte pour vous,
voilà,
le rappeler plusieurs
c'est
fois.
C'est le cheminement vers, et quand on a atteint son but, eh ben, il faut vite en trouver un autre, parce que oui, là-dessus je suis pré-socratique, je suis plutôt du côté d'Héraclite, je pense que c'est le déplacement vers qui compte, et que tant qu'on bouge, c'est pour ça que mon idole absolue, c'est Fred Astaire, tant qu'on bouge, on est vivant. Tant qu'on danse, on est vivant. Oui, c'est le déplacement, la vie. Et le but, c'est un peu mesquin. Parce que, on l'atteint, big deal. L'important, ouais, c'est le déplacement. C'est ça, la vie.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Dionnet, d'être venu dans cette émission.
C'est moi.
Je rappelle le titre de votre autobiographie coécrite avec Christophe Killien, Mémoire, un pont sous les étoiles, paru le 29 août dernier aux éditions Hors Collection. Chers auditeurs, la musique, les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que votre âme est aussi jouasse que celle d'une pistache à bretelles. Vous pouvez nous réécouter en podcast et nous suivre sur les réseaux en attendant notre rendez-vous dimanche prochain à 10h.